Alors, si vous voulez vous lever, on va lire Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 21. Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 21. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux était comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Alors, si vous pouvez vous asseoir. Vu que c'est un passage que j'ai pris beaucoup de temps à préparer, puis que c'est une des premières fois que sur le même passage que je suis rendu à la troisième partie. Mais c'est tellement un beau passage que je serais extrêmement désolé de le, comment on dit en québécois, de le moffer. C'est tellement un beau passage qui mérite d'être étudié avec attention et de comprendre ce qui se passe. Alors, on avait vu, j'avais dit comme qu'on avait donné comme titre au sermon d'aujourd'hui, la deuxième venue du grand roi Jésus-Christ. La deuxième venue, c'est son retour. La deuxième venue, c'est ce qu'il nous avait dit qu'il reviendrait. Alors, la deuxième venue du grand roi Jésus-Christ, sa finale et triomphale victoire. Alors, c'est un passage que j'ai aimé d'une façon particulière. Sur toute l'Apocalypse, je l'ai aimé, mais ce passage-là, d'une façon particulière, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Le retour du Seigneur, et il juge de façon très sévère ses ennemis. Donc, on parle que il y a le dragon, qui est Satan, il y a la bête, puis il y a le faux prophète. Ici, sur trois, le Seigneur se débarrasse de deux. Il se débarrasse de la bête et du faux prophète, et on va voir qu'un peu plus tard, il va se débarrasser aussi du dragon et de Satan. Alors, on va faire une révision jusqu'où on est rendu rapidement. Alors, une des choses à remarquer dans ce passage-là, dans le chapitre 19, c'est vraiment la question du contraste des deux repas. On a les noces de l'agneau dans le verset 9, où on nous parle que, à un moment donné, les saints vont être rassemblés pour les noces de l'agneau et là, on va être dans la joie entière, complète et absolue. Et ça va être la grande joie, la grande fête, comme on peut dire. Alors ça, c'était dans le verset 9 du chapitre 19. Mais tout de suite après que le Seigneur nous montre qu'il y a eu la grande fête au ciel, des croyants, maintenant il nous montre que lui revient et que là, il fait un ménage dans tout ce qui est ses ennemis sur la terre. Très intéressant de voir cela. Alors, le contraste des deux repas, c'est que les noces de l'agneau, on sait quand on va dans une noce, normalement, on va là pleurer, on va là pour s'amuser, on va là pour se réjouir, on va là pour partager la joie des époux. Maintenant, le deuxième repas qui est mentionné dans le verset 17, on parle du festin du grand Dieu. Et le festin du grand Dieu, si on se rappelle, si on vient de lire, le Seigneur a dit aux oiseaux du ciel, assemblez-vous pour venir manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des chefs de tous les ennemis de Dieu. Alors, ça fait un drôle de contraste quand on regarde un qui est de la joie et du bonheur, et l'autre, c'est vraiment l'horreur, la catastrophe. Les gens, quand ils vont être jugés, ils vont trouver que manger la chair de tout ce monde-là, c'est bien sûr, c'est symbolique, mais c'est le jugement du Seigneur va être très sévère. On se souvient aussi que dans le livre de l'Apocalypse, le thème du livre de l'Apocalypse, et moi, ce qui m'a béni le plus dans le livre de l'Apocalypse, c'est vraiment la question du dévoilement. Il y a certaines versions françaises qui ont donné comme titre du livre de l'Apocalypse la révélation. Puis c'est ça aussi, en anglais, c'est « revelation ». Donc, la révélation, c'est un dévoilement. On veut nous montrer certains aspects de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ qui n'a pas nécessairement été démontré dans les évangiles et dans les épîtres. Là, on nous montre Christ d'une façon, c'est vraiment le dévoilement, il est le roi, il règne sur tous les événements qui se produisent sur la terre, il règne sur les nations, il règne sur les individus, il règne sur tous les êtres de la terre. Très intéressant. Donc, c'est le thème du dévoilement. Et le verset 3 du chapitre 1 nous avait donné une promesse. La raison pour laquelle je me suis embarqué dans la prédication du livre de l'Apocalypse, c'est ce verset-là en particulier qui m'a donné le courage de m'embarquer. Parce que je sais que c'est un livre difficile, je sais que c'est un livre il y a des versions contradictoires dans l'interprétation, mais le Seigneur lui-même dit qu'il y a une bénédiction de rattacher à sa lecture et aussi à garder les paroles qui y sont écrites. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La lecture elle-même apporte une bénédiction. Garder les paroles qui y sont écrites, ça veut dire essayer de comprendre ce qu'il dit, puis de mettre ça en application dans ta vie de tous les jours. Il dit qu'il y a une bénédiction de rattacher à ça. Est-ce que nous, comme chrétiens, on refuse les bénédictions? Bien, on ne devrait pas, en tout cas. Si on le fait, on est vraiment dans un très mauvais état spirituel. Et il y a des choses aussi sur Christ, des attributs qui sont développés peut-être d'une façon particulière au livre de l'Apocalypse sur les attributs de Jésus-Christ. Donc, les attributs de Jésus-Christ, c'est comme les attributs de Dieu, c'est les mêmes, mais on commence à dévoiler certaines affaires sur Jésus-Christ qu'on n'avait peut-être pas nécessairement pleinement compris ailleurs. Alors, ça, c'était... Et une des choses qu'on avait regardées, c'était que dans l'Apocalypse, au chapitre 4, on avait dit qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Maintenant, au début du chapitre, dans le chapitre 19, la section qu'on étudie, ça dit que c'est le ciel lui-même qui est ouvert. Pourquoi le ciel? Pourquoi c'est le retour du Christ, c'est le jugement. Donc, le ciel est ouvert. C'est très intéressant de garder à l'esprit cette idée-là. Et j'avais déjà mentionné, on le répète parce que c'est très important, quand vous voyez des fois le mot « voici » dans les Écritures, souvent, c'est en anglais, si vous regardez dans des versions comme King James, c'est « behold ». « Behold », c'est vraiment l'idée de... C'est comme si Dieu te disait « arrête-toi, là. Examine attentivement ce que je te dis, puis réfléchis. » C'est ça que ça dit « behold ». Voici, tandis que des fois, le mot « voici », ne donne pas nécessairement ces idées-là. C'est vraiment l'idée d'arrêter, de considérer et de réfléchir. Donc, le Seigneur nous appelle, quand on étudie l'Apocalypse, vraiment de faire attention. Pour nous, le Seigneur veut nous dévoiler, nous montrer qu'est-ce qu'il est en train de faire. On avait parlé de l'idée du conquérant, le cheval blanc. Dans les armées, anciennement, quand tu t'allais conquérir une nation ou la mettre à l'ordre, quand elle était en désordre, quand tu revenais, puis tu étais victorieux, le général, le chef, là, il revenait toujours sur un cheval blanc. Parce que l'idée de la victoire est rattachée au cheval blanc. Pourquoi le Seigneur met un cheval blanc ici? C'est parce que c'est sa victoire, puis vous remarquerez que le moyen qu'il va prendre pour maîtriser tous ses ennemis n'est pas encore dit. Il est déjà sur le cheval blanc avant l'action. Ça, c'est à remarquer. Là. Le Seigneur, c'est comme s'il est tellement sûr de son coup. Il est déjà assis en victorieux avant même d'avoir entrepris les actions. Alors, le cheval blanc, bien entendu, les deux méthodes que le Seigneur va utiliser dans sa conquête, ça va être la parole et aussi la providence. Les actes de la providence, ce qui se passe dans toute la vie, sur toute la terre. La providence, c'est une des belles doctrines à comprendre dans les Écritures, parce que ça a un impact majeur sur notre vie à nous, notre façon de vivre notre vie chrétienne. Si la doctrine de la providence est exacte, puis je suis sûr qu'elle l'est, c'est que Dieu, de toute éternité, a fait un décret. On sait ce que c'est, un décret. Hein? Un décret de la construction, un décret de ci, un décret de ça. C'est une décision. Dieu a décidé de tout ce qui se passerait sur la terre, de toutes les époques, sur tous les individus, sur tous les gouvernements, sur toutes choses. Alors, si on comprend vraiment ça, quand Dieu nous envoie quelque chose dans la vie qui fait mal, puis qu'on aimerait mieux pas l'avoir, là, on est quasiment en train de dire à Dieu, « Pourquoi tu t'es trompé? Pas ça, on a besoin. » Imaginez-vous ce qu'on fait. Si la doctrine de la providence serait vraiment bien comprise, on ne chialerait jamais. Vous êtes d'accord avec ça? On ne chialerait jamais. Comment ça se fait qu'on chiale tant que ça? C'est parce que peut-être qu'on se pense plus fin que le Seigneur. Le Seigneur, il dit que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui aiment Dieu, c'est les croyants. Alors, si tu es un croyant, les circonstances que Dieu t'envoie sont les circonstances que tu as besoin pour le moment, pour toutes sortes de raisons, pour t'emmener à la ressemblance de Christ, pour corriger certains défauts de ta personne, de ta personnalité, et bien d'autres raisons encore. Maintenant, on avait vu que le passage nous parle des noms. Il y a plusieurs noms qui sont mentionnés. Le fidèle et le véritable. Dieu est fidèle. Il a fait des promesses dans Genèse 3, quand le serpent a séduit Ève et Adam. Il a dit qu'il enverrait son Messie dans Genèse 3, 15. Il est fidèle. Ça a pris du temps, mais Seigneur, il ne voit pas le temps comme nous. Alors, pour lui, il est fidèle, il est le véritable, il n'est pas un faux Dieu, il est le vrai Dieu, et il dit toujours la vérité. À une époque où on est vraiment submergé dans le mensonge, savoir que notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais menti, ne mentira jamais. Quand on lit sa parole, s'il y a quelque chose d'agréable à lire la parole de Dieu, c'est que tu te poses ta question, si c'est la vérité ou si c'est un mensonge. C'est toujours la vérité, c'est pas compliqué. Après ça, il y a un autre mot qui a été utilisé, c'est le mot « la parole de Dieu ». On l'a, le deuxième nom qui est mentionné dans le passage, c'est « la parole de Dieu ». Logos, ça veut dire celui qui a créé, celui qui maintient l'univers. C'est gros le mot logos, ça veut dire mettre toute la création à l'existence, t'occuper de la maintenir en place et de la diriger. C'est ça Dieu, la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, le mot logos, parle de sa préexistence éternelle. Jésus, avant même que la terre existe, il était avec Dieu dans le ciel, éternellement. Il a toujours existé, Jésus. Il n'a pas commencé quand il est venu au monde avec Marie et Joseph. Là. Aussi, le mot logos parle de sa divinité ou sa déité. Et aussi qu'il était un agent de la création. Donc, avec le Saint-Esprit et Dieu le Père, il a été agent de la création. Et il était le porteur de la révélation. Donc, il l'a dit lui-même, « Je suis la vérité, je suis la vie, le chemin, la vérité, la vie. » Et il l'a dit qu'il a amené la grâce et la gloire de Dieu lui-même. Autre nom qui est mentionné, celui-là aussi très intéressant, parce que ça dit « Roi des rois ». Qui n'a pas déjà chanté le chant « Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia ». Alors, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, c'est, il faut reculer un petit peu dans le livre de Daniel et dans beaucoup d'autres passages où le Seigneur montre que combien de fois le Seigneur a pris un roi. Il l'a fait retourner dans son pays. Il allait attaquer Israël. Le Seigneur, il dit non, tu l'attaqueras pas Israël. Tu vas retourner dans ton pays. Puis, il utilise des images un peu comme si tu mets un mort à un cheval. Le cheval, il va toujours suivre la direction que tu lui dis. Et le Seigneur, maintes et maintes fois dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau aussi, montrer qu'il est capable de diriger une nation, même si une nation dirait qu'il nous attaque, si le Seigneur dit non. Tu vas t'en retourner où est-ce que tu viens. Tu t'en retournes où est-ce que tu viens. Roi des rois. Le Seigneur dit dans le livre, le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme une eau courante. Il l'incline à tout ce qu'il veut. Alors, on l'a dans Daniel aussi, dans Nébuchadnezzar, où qui se pensait, là, il était un des plus gros royaumes de l'époque. Hein. Puis là, à un moment donné, il s'est pris pour un autre. Le Seigneur l'a averti. Il l'a envoyé pendant 7 ans manger de l'herbe. Le roi le plus puissant de l'époque, il n'a plus de roi comme ça aujourd'hui. Il faut comprendre, quand le Seigneur a dit qu'il est le roi des rois, il a pris le roi le plus fort, le plus de l'époque, et il l'a amené à manger de l'herbe dans un champ pendant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que l'Éternel domine. Il est-tu le roi des rois? Puis le Seigneur des seigneurs, ça veut dire tous ceux qui ont quelque influence ou quelque pouvoir dans quelque domaine que ce soit, il est le Seigneur de tous les seigneurs de la terre. Alors, on était rendu à peu près là dans les noms. Et la semaine dernière, on avait vu qu'il y avait dû un autre nom. Et ça disait, il n'y a que seulement lui qui le connaît. Et on avait vu dans le dictionnaire, quand on parle d'un nom à l'époque biblique, le nom révèle l'essence de la personne qui le porte. Donc, quand on parle de l'essence de Dieu, on parle de sa nature, qui il est véritablement. Pourquoi il est le seul qui le connaît? Parce que ça implique se connaître soi-même. Vu qu'il est Dieu, il n'y a personne d'autre que lui qui peut connaître, à part que si tu es Dieu toi-même. Donc, il n'y a rien que l'Esprit ou le Père qui peut vraiment connaître le nom, qui portait un nom que lui seul pouvait connaître. On avait vu aussi que le nom était illustré aussi par ses attributs divins. On va les passer rapidement pour arriver où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. On avait vu qu'il était le juge. Seul Dieu est un véritable juge. Mais il dit qu'il combat avec justice. Les juges de la terre, on sait tous ce que c'est. La plupart sont achetables, la plupart sont influençables. Et comment on en voit des expériences de personnes qui ont été prises en flagrant délit de criminalité, ils se présentent en cour, puis ils n'ont rien parce qu'ils ont un avocat qui est habile, ou ben non, qui a eu des petites magouilles de donnage d'argent en dessous de la table, comme on dit. Avec le Seigneur, ça ne marche pas. Puis c'est ça qui est intéressant, parce qu'on sait que les gens ne pourront pas s'en tirer avec des pots de vin, ils ne pourront pas s'en tirer avec de l'argent. Alors, on avait vu qu'il était le juge, qu'il était un juge juste, qu'il était omniscient, quand on parle de ses yeux comme une flamme de feu. On avait vu aussi qu'il était souverain, les couronnes, les fameux diadèmes, sur plusieurs choses. Il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Un diadème, c'est une couronne, c'est une, C'est une façon de dire que celui qui la porte a vaincu quelque chose. On les passe rapidement. C'est quoi qui a régné? C'est sur quoi il règne? Premièrement, la mort. Deuxièmement, sur Satan et les anges déchus. Quand on lit les évangiles, on le voit, le Seigneur, comme quand il disait au Satan, « Sors de cet homme! » Il a le pouvoir de commander aux êtres les anges déchus. Aussi, il est souverain sur les rois de la terre, sur l'enfer, et aussi, il faut élargir. Parce que quand on comprend la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ, là, on se rend compte que notre Sauveur est tellement puissant. Il règne sur les planètes et les étoiles. Je relisais cette semaine le nombre d'étoiles. Je retournais dans mes études de la jeunesse, je voulais m'en souvenir. Une galaxie, la nôtre, la Voie lactée. 100 millions d'étoiles. Puis il y a 100 millions de galaxies. Et il dit qu'il est capable de garder tout cela. C'est incroyable, là. C'est incroyable, mais croyable, je le crois, parce qu'il est le roi des rois et le créateur. Il maintient toute chose en existence. Il est d'une puissance inimaginable. Alors, quand il décide qu'il fait le ménage, là, rien qui résiste à ça. Ça parle aussi que son nom est insondable. Ça parle aussi de son omnipotence. L'omnipotence, ça veut dire qu'il y a une puissance infinie. Ça parle aussi qu'il est le Rédempteur, parce que ça dit au verset 13, « Il était vêtu d'un manteau teint de sang. » On se pose toujours la question, teint du sang de qui? Le sien ou la plupart des auteurs pensent que c'est le sang de ses ennemis. Alors, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière là-dessus. On était rendu là. On était rendu au verset 17-18. Verset 17-18. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil et qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient par le ciel. Venez et assemblez-vous pour le festin du grand Dieu. Un drôle d'affaire, hein? Un repas, le festin du grand Dieu, des corps morts. Quel festin. Alors, on voit la différence qu'il y a entre les noces de l'agneau et le festin du grand Dieu. Et là, il a dit, rassemblez-vous pour le festin du grand Dieu pour manger la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Le pasteur et commentateur Joel Beakey nous donne une clé de compréhension de ce passage-là. Alors, je vous ai mis dans le texte original, ceux qui ont les notes, en anglais, puis j'ai fait la traduction en dessous. Il dit « La clé de ce symbolisme est la Bible elle-même. Dans l'Ancien Testament, donner la chair de quelqu'un aux oiseaux exprimait l'idée d'une défaite totale et d'une soumission honteuse aux ennemis. Il n'y avait personne pour donner au corps des tués un enterrement décent. » On voit un exemple, par exemple, dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 44 à 47. Le Philistin dit encore à David, « Viens vers moi. » Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et David répondit au Philistin, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te tuerai et j'ôterai ta tête, et je donnerai aujourd'hui les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu, et toute cette assemblée saura que l'Éternel ne délivre point par l'épée, ni par la lance, car la bataille est à l'Éternel qui vous livrera entre nos mains. Un autre exemple du livre d'Ézéchiel, chapitre 39, versets 17 à 21. Et toi, fils de l'homme, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, dis aux oiseaux de toute espèce et à toutes les bêtes des champs, assemblez-vous, venez, réunissez-vous de toutes parts pour le sacrifice que je fais pour vous, un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros, vous boirez le sang des princes de la terre, des béliers, des agneaux, des boucs, tous engraissés en bassin. Vous mangerez de la graisse jusqu'à en être rassasié, et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer au sacrifice que je ferai pour vous. Vous serez rassasiés à ma table, des chevaux et des cavaliers, des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront mon jugement que j'exercerai et comment je leur ferai sentir ma main. On voit la souveraineté dans la sévérité du jugement des ennemis de Dieu. On voit aussi la souveraineté illustrée par la puissance du jugement de ses ennemis pour manger la chair des rois. Alors, on parle ici de tous les ennemis de Dieu, mais les plus puissants. Ils sont tous rassemblés. Le Seigneur dit, rassemblez-moi tout ce monde-là, parce qu'il va y avoir un gros repas. Alors, la toute-puissance de Dieu est vraiment nécessaire pour pouvoir rassembler et agir efficacement sur un aussi grand nombre de personnes détenant un si grand pouvoir au niveau humain. Ça se manifeste aussi par l'universalité du jugement, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Aucun ennemi de Dieu n'échappera ou ne sera épargné. Leur contribution au mal, si minime soit-elle, sera exposée et sévèrement jugée. Versets 19 à 21, on est vraiment dans la partie de la victoire. Alors le Seigneur, il se rassemble pour aller combattre l'Éternel en ayant l'audace et la folie de penser qu'ils peuvent vaincre le Seigneur. C'est la folie furieuse, comme on dit. C'est là qu'on voit jusqu'où l'être humain va aller dans sa folie. Alors, ils osent croire qu'ils peuvent vaincre le Tout-Puissant et anéantir l'Église de Jésus-Christ. Alors, plusieurs passages du Nouveau Testament nous informent sur cette gigantesque bataille du temps de la fin. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 5 à 10. Ce qui est une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent, et le repos avec nous, à vous qui êtes fatigués, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, dans un feu flamboyant, pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils subiront leur peine, une perdition éternelle, par la présence du Seigneur et par sa puissance glorieuse, lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car vous avez cru notre témoignage. Et dans le même passage, 2 Thessaloniciens, chapitre 2 maintenant, versets 3 à 12, que personne, là on parle de l'apostasie, que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, du péché, le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvient-il pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Et alors, paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son événement. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et des faux miracles, et l'amour de la vérité pour ceux, et tous ceux, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu l'enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Verset 20. « Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui devant elle avait fait des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlant dans le soufre. » Paulin Bédard, dans son étude du même passage, a fait une observation qui est importante pour nous éclairer dans notre compréhension de ce verset-là. Il dit, cette description du jugement ne signifie pas que deux individus seront jetés corporellement dans le lac de feu. On comprend que ceux qui sont collectivement représentés par la bête et le faux prophète seront ainsi punis à la fin de l'histoire. Autrement dit, ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que la bête et le faux prophète, c'est pas juste deux individus, c'est tous ceux qui sont avec. Autrement dit, c'est très important de saisir ça. Alors, il va rester qu'un ennemi à vaincre, selon le texte, c'est Satan lui-même, le dragon. Et le chapitre 20 va nous décrire cette phase finale du combat. Alors, la victoire du Christ est vraiment donnée de façon complète dans le verset 21. Et tout le reste, on parle de la terre assemblée, on n'a pas d'idée, c'est gros. C'est gros, tous les ennemis de Dieu. Et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval. Est-ce que c'était une véritable épée ou c'était la parole de Dieu? C'était la parole de Dieu. C'est encore une fois l'utilisation d'un symbole pour parler. Avec une épée, tu peux couper la tête de quelqu'un, tu peux le transpercer, tu peux le tuer. Mais quand Jésus parle, s'il est capable, par sa parole, de prendre rien, le néant, et d'amener l'univers, quand il dit ici, l'épée qui sortait de sa bouche, c'est vraiment sa parole. Et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Alors ici, on voit quelque chose d'important, c'est l'universalité du jugement. Pas juste un petit groupe, pas juste deux individus, c'est à la deuxième venue, c'est le jugement que le Seigneur amène. Si on veut savoir qu'est-ce qui va arriver alors dans le chapitre 20, qu'on va commencer à étudier la semaine prochaine, il dit, quand les 1000 ans furent accomplis, Satan sera délivré de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, et il les assemblera pour combattre. Et leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés au siècle des siècles. C'est intéressant de penser. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand on nous parlait de l'enfer, il y avait des fausses idées qui circulaient. On nous disait qu'on était pour être tourmenté par les démons. Est-ce que c'est ça que la Bible dit ici? Où sont la bête et le faux prophète? Et ils seront tourmentés. Ouais. C'est pas eux qui vont tourmenter ceux qui sont là. C'est eux qui vont être tourmentés. Pas la même chose. Jour et nuit, au siècle des siècles. C'est long, ça. Apocalypse 21 dit, « Celui qui vaincra héritera toute chose. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idoles et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre, ceci est la seconde mort. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le passage, la feuille que je vous ai donnée. Qu'est-ce que l'incompréhensibilité de Dieu quand on veut comprendre le passage sur les noms que Jésus seul le connaît? Puis j'avais laissé quelques copies. Je vous conseille de lire ça, c'est vraiment intéressant. Ça vous fait comprendre des choses. Quand vous allez relire Apocalypse, que vous allez arriver sur ce passage-là, vous ne le comprendrez plus jamais de la même façon. Alors, quelles sont les applications qu'on peut tirer de cette étude rapide du chapitre 19, de 11 à 21? Moi, j'en vois trois. Il y en a sûrement plus que trois, mais non moins trois. La première, c'est « Apprenons sur Christ ». Il est invincible. Le but du livre de l'Apocalypse est de nous révéler la glorieuse personne de Jésus-Christ et de son œuvre. Ses noms sont particulièrement révélateurs. Fidèle et véritable, la parole de Dieu, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et un autre nom révèle encore davantage, et ceci d'une manière infinie, un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Ne soyons d'aucune manière inquiets, d'aucune manière, malgré les circonstances actuelles. Nous sommes vainqueurs en lui. Notre destinée éternelle est assurée. Sais-tu quelque chose d'intéressant à se faire rappeler? Peu importe où ce que ça va nous mener là, dans l'avenir, le développement de toutes choses. La pire chose qu'ils peuvent faire, c'est juste tuer notre corps. Le reste, ils n'ont pas accès à ça. Et on est invincible en lui, pas en soi, en lui. Très intéressant. Deuxième application. Réalisons plus pleinement qu'il est souverain. Souvent, on parle de la doctrine de la souveraineté de Dieu, mais il faut comprendre jusqu'à quel point. Et c'est ça qui... Parce qu'on vit à une époque où on peut penser que c'est comme le Seigneur nous a oubliés. Il se passe des affaires, c'est souffrant. Non, il ne nous a pas oubliés. Il sait ce qu'il fait. C'est plein de sagesse, c'est plein d'intelligence. Et on se doit de lui faire pleinement confiance. Parce que c'est ça que les Écritures nous disent. Alors, le contrôle qu'il a sur toute chose est absolu. Il soutient et il gouverne toute chose. Juste pensez à ça, là. Vous avez déjà une idée de la puissance et de l'étendue de sa souveraineté. Il règne sur les anges, bons et mauvais, sur tous les hommes, tant individuellement que collectivement. Il règne sur son Église, l'ensemble des églises locales du monde. Accueillons les circonstances qu'il nous envoie et qui sont remplies d'amour, de miséricorde et de sagesse. Juste ça, là, si on tiendrait ça, là, on mettrait vraiment ça en application, se souvenir que qu'est-ce qu'il nous envoie, on arrêterait de chioler et on y rendrait grâce, même les épreuves. Ça serait ça de la maturité chrétienne. On est tous loin de là. Mais on peut lui demander, par exemple, de nous donner une compréhension que peu importe ce qui nous arrive dans notre quotidien, il nous en arrive-tu des affaires qui nous déplaisent, qui nous défrisent, qui nous dérangent dans la vie de tous les jours? Moi, j'en ai tous les jours, puis certains vous en avez aussi. Mais de s'habituer, demander à Dieu de vous le montrer. Chaque fois que je suis dans un moment d'impatience, de chiolage, de mécontentement, demandez à Dieu, montre-moi là ce moment-là, puis fais que je me rappelle que c'est toi qui me l'envoie. Ça va tout changer votre vie. Faisons-lui pleinement confiance dans son contrôle absolu de l'histoire du monde. Et troisième application, prenons puissamment conscience qu'il est victorieux. Romains, chapitre 8, versets 37 à 39. Ça serait un beau passage parce qu'il dit qu'on est plus que vainqueur. Être vainqueur, c'est déjà quelque chose, mais plus que vainqueur. Romains 8, versets 37 à 39. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Moi, si ça ne vous rassure pas, moi, ça me rassure. Que Jésus-Christ soit béni, loué et adoré éternellement.